זה רחמי אברהם ואבי נחום, ויעבור את זה אלוקים אחרים, אלוהים אחרים, כי זה אלוהים. ויקח את אביכם את אברהם. תגיד, אני אעשה את חיק לך, כל, בזנסת אברהם, הייתה עם דיאספורה בעבר לנהר, עשה עובדי עבודה זו. זה כן? ואתה קרב לנו המקום לעבודתו. נלכון הרפונס להגדה, לרפונס זה מעבדות לחירות. האישי זה מעבודה זרה לעבודתו. נכון? על רב חדים, זה תהי דולה, עובדי עבודה זרה. לינטרלמנט, איסי לאקספרסיון תלויה פר להגדה, נפה l'expression négative de l'idolâtrie, paganisme, mais une expression qui signifie leur avoda était étrangère. Ils étaient au service d'un service étranger. Elohim, Elohim Aherim. Okay? Dans le sens du deuxième commandement des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Elohim Elecha, Elohim Aherim Alpanaï. Qui sont ces Elohim Aherim Alpanaï? C'est le dieu des êtres. Avodah Zara. C'est une Avodah, mais les Zara. Avodah Kochavim ou Mazalot. Ça, c'est l'idolâtrie dans le sens du paganisme. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, vous savez, le problème, et donc, d'après ta question, c'est que, à partir du moment où l'événement de la sortie d'Égypte pour nous s'est réalisé, le retour de l'exil s'est réalisé, perpétué dans la situation de l'exil, c'est opter, choisir pour la Avodah Zara. C'est-à-dire le service à la manière de l'étranger. Ça va jusqu'à là ? Okay ? C'est clair ? Bon, alors il semble bien que la population juive de la diaspora en général, et encore une fois, je vous décris une tendance typologique, c'est pas du tout ce qu'il y a dans la conscience de chaque juif à l'échelle individuelle, a opté pour l'option qui est celle du christianisme. Tout simplement. Est-ce que c'est clair? Et alors, c'est le sort qu'ils ont choisi et c'est le sort qu'ils s'imposent. De génération en génération, on voit que les communautés juives fournissent des tzadikim aux chrétiens. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre? Hein? Le nombre de juifs et de juives qui vont dans le monde chrétien par mariage mixte, par assimilation, est incroyable. Les enquêtes démographiques que nous avons montrent que d'ici 20 ans, il y aura à peu près autant de juifs en Israël qu'en diaspora. Pourquoi ? Pas parce qu'il y aura une alia massive, hein, mais parce que les juifs de diaspora sont en train de disparaître. Mais où ils vont ? Mais ils vont dans le monde chrétien. Et vous n'avez aucune idée de la valeur humaine qu'ont ces juifs-là. Vous les connaissez, je les connais, ce sont des grands hommes et des grandes femmes. Et puis, on fait cadeau de ça au goyim, tout simplement. Est-ce que c'est clair? C'est des gens de valeur. Hein? Et puis, alors, ils deviennent SA, tout simplement. Alors, la chrétienté d'origine goy est beaucoup plus à l'aise pour être diaspora d'Israël que la diaspora juive qui veut parvenir en Israël. Alors, elle est en difficulté dans un problème d'identité très difficile. C'est-à-dire, ils ont l'option chrétienne tout en voulant juif. Mais c'est l'option chrétienne. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors là, il faut les peindre. L'humour de l'histoire, c'est que... je fais allusion à personne en particulier. Parce que c'est un destin qui prend les gens, et puis quand ça arrive, ça arrive. Alors, imaginez, qu'est-ce que c'était un chrétien à l'origine? C'est un citoyen romain de religion d'Israël. C'est un chrétien. Bon, alors, citoyen français... de religion d'Israël, c'est quoi? C'est un chrétien, c'est un juif. Vous réfléchissez un peu, hein? Je vous ai dit la Gada, on est à Oulada, c'est pas juif. Alors on a beau se prétendre, non, je suis juif, je mange que ça, je mets des tchilines. Alors il y a un clown qui s'amène, d'origine juive, et qui vous dit, c'est moi l'archevêque. C'est ça votre identité. C'est vrai ou pas?
Oui. Mais c'est le cas aussi, alors pour en parler.
C'est très grave. Bon, alors encore une fois, Hasdé Hachem Motamou, la miséricorde de Dieu protège les juifs, et alors ils sont dans des petits abris qu'ils appellent synagogues, et puis qui ressemblent à des églises, mais c'est une autre histoire, et ils sont persuadés qu'il n'y a pas de problème, que rien ne s'est passé, qu'il n'y a aucune différence entre Lustiger et puis son collègue. Mais peut-être c'est vrai, ça va être différent.
concernant la possibilité des ça, de devenir tzadik en restant et ça, comment est-ce qu'on peut expliquer, si on extrapole un petit peu, je sais pas, dans la guerre par exemple, le fait que du nom.
C'est comme si tu disais, ça c'est chassidé au de l'homme de nos joueurs. C'est comme si tu me disais qu'un rachard peut rester rachard en devenant tzadik. C'est pas possible. Il faut savoir de qui on parle. N'importe quel goy peut être chassid, même chrétien. Mais un chrétien qui se définit comme chrétien en disant c'est moi le vrai juif, okay, quand il fait tchouva, il devient juif, il n'est plus chrétien. Ou diaspora de juifs. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? Alors vous voyez, la gifle qu'on est en train de recevoir avec cet événement que l'archevêque de Paris, c'est un chrétien d'origine juive, mais qui déclare et c'est comme ça que je suis vraiment juif. Et c'est ça que je parle. Et écoutez, je connais bien les juifs sincères de France. Et les clercs qui sont persuadés qu'ils sont des héros de la judéité, de la judaïcité, de tenir le coup en tant que juifs au milieu des goyim. Mais objectivement, quelle est leur option? C'est l'option de Esav, qui est devenu Edom. Est-ce que c'est clair? Alors pendant 2000 ans, c'était camouflé, mais maintenant qu'Israël existe, c'est clair. Alors maintenant, la destinée, le goral de l'individu comme individu, c'est entre les mains de Dieu seul. Personne n'a à juger. Tout simplement, on ne peut que constater avec effroi ce qui se passe. Or, ne croyez pas que Dieu impose aux Juifs méchamment des situations existentielles impossibles. Alors, s'il devient impossible de rester juif en diaspora, c'est que c'est plus le temps de diaspora, mais ils ne sont pas condamnés à une identité aussi impossible que ça. Parce que, finalement, si les choses se régularisent avec la chrétienté, qu'est-ce que c'est un juif de la diaspora sans chrétien? Alors, il faut régulariser au niveau politique, au niveau théologique, il faut qu'ils abandonnent leur idolâtrie, tout ce que vous voudrez, mais la situation en termes hébraïques strictes, traditionnels, vous l'avez dans la Avodah Zara. On n'a pas dit que cette Avoda, c'est du mal qu'ils font, mais les Zara. Quand on s'occupe d'astrologie, c'est en décorant le Mazana. T'as compris le problème? C'est-à-dire, maintenant les juifs ne sont pas païens, parce que même les goyim ne sont plus capables d'être païens. Mais Avodah Zara, c'est Avodah Zara. Alors, je ne sais pas si c'est suffisamment clair. On reprendra ces termes. Si je définis Esav comme le côté rachar qui ne peut pas devenir Israël, okay, et lorsque ce côté rachar fait tchouva qui devient tzadik, alors il est Israël. Esav, tzadik, c'est une contradiction dans les termes. C'est clair? Bon. Ceci dit, les chrétiens actuels, ce n'est pas les fondateurs du christianisme. Comme dit le Talmud, Maaseh Avotam Beyedeyem. Et ils ne sont pas responsables de l'histoire héréditaire qu'ils ont entre les mains. Eux ne sont pas responsables des fondateurs. C'est les fondateurs du christianisme qui sont les renégats. Okay? Sauf quand ils prennent le même profil d'identité, quand ils se prétendent être le véritable judaïsme. Alors là, ils sont responsables, ils sont justiciables de la loi d'Israël. Et alors, s'ils font tchouva sur cette hérésie, disons, sur ce reniement, alors ils deviennent Israël. Dans l'histoire contemporaine, nous voyons qu'il y a un certain nombre d'individus venus de Esav qui deviennent Israël. Ça ne veut pas dire que c'est la destinée de tout Esav. La Gemara dit déjà depuis très longtemps, Rov Gerim Baim Esav. La majorité des Gerim viennent de Esav. Okay? Il est possible que d'une certaine manière, la chrétienté, c'est une sorte de propédeutique à devenir juif. C'est bon, ça est. Moi, je ne crois pas tellement, mais enfin, c'est possible. Et il y a des gens qui pensent comme ça. Et alors, mais l'immense majorité des chrétiens, lorsqu'ils s'aperçoivent en toute bonne foi qu'ils ont été trompés, qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont été trompés, deviennent des amis d'Israël. Ils ne se prétendent plus Israël. Est-ce que c'est clair? Je vais raconter une histoire que j'ai vécue ici à Jérusalem. Il y a une quinzaine d'années, je donnais des cours au mois de Naolé. Et puis à la fin d'un cours, c'est le mois de Naolé, là où les top. Et alors, il y a un jeune homme qui s'approche de moi, qui me demande un rendez-vous. Ça m'arrive souvent, des étudiants me demandent un rendez-vous pour discuter d'un sujet de thèse, peu importe. Il n'y avait pas de kippa, mais beaucoup de juifs n'avaient pas de kippa. Et je donne ce rendez-vous, et voilà comment ça commence. Il dit, eh bien, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Eh bien, j'ai compris, la Bible, c'est à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réguler? Qui tu es? Et bien, c'est un séminaire que c'est son évêque avant envoyé à Jérusalem, à l'école biblique des Goïm, là-bas dans la Vélie, pour se préparer à être missionnaire pour convertir les Juifs du Maroc. En plus. Et puis, par hasard, il y a eu l'imprudence de venir à un cours de Bible fait par un rabbin, et il a compris, on l'avait trompé, que Israël, c'est pas l'Église, c'est les Juifs. Il s'est rendu compte de ça en étudiant la Bible avec un rabbin. Et alors, au bout de 3 ans, il était converti, et était fou de joie de pouvoir se marier, d'avoir des enfants, et d'être Israël. Alors que sinon, le pauvre aurait été curé. Et alors, il m'a raconté son histoire. Quand il était jeune, il a été pris de tomber amoureux de la Bible. Alors, il est rentré dans les ordres parce qu'il était persuadé que c'était ça être Israël. Quand il s'est aperçu qu'il s'est trompé d'adresse, il a régularisé, tout simplement. Alors, ces cas-là, c'est des cas rares, comme disent les Italiens. Mais ça veut dire, ça arrive, mais c'est pas forcé que ça soit plus qu'une élite. Le rôle des chrétiens, leur problème d'identité, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure un peu trop rapidement, d'être diaspora d'Israël. C'est à ce moment-là, la Sornou pourra respirer, la Macbeth viendra des Goïm, ce sera plus léger. Et donc le drame, c'est vraiment l'avenir de la diaspora juive au sein de la chrétienté. Surtout dans un pays comme la France, où on commence à admettre comme un postulat qui va de soi que le véritable juif, c'est celui qui est devenu chrétien. Vous avez compris, vous ? Est-ce que c'est clair ? Et c'est la première fois de l'histoire qu'un dignitaire de l'Église vous dit qu'il est membre du peuple juif. Et qui vous parle du Kaddish qui dit pour sa mère morte à Auschwitz avec une émotion que je suis persuadé est réelle. Sincère, je ne sais pas, mais réelle, ça s'implique. C'est jamais arrivé cela. Jusqu'à présent, un juif devenu chrétien quittait le peuple juif. Et maintenant, c'est en tant que. Bon, plus dangereux. Hein. Bon, mais c'est tout simplement. Je ne sais pas comment dire, c'est Mida Kenegan Mida. Les juifs ont voulu être ça, alors le bon Dieu leur a envoyé un clown pour dire voilà ce que c'est ça. Est-ce que c'est clair ce que vous dites ? Voilà. Alors on va revenir à la suite de notre question. Veine Tomim de Vikna. Verset 25. Bayetse Arishon Admoni. Et le premier est sorti rouge. Roux, enfin c'est rouge. Kulo qui a des retsear. Tout entier comme une cuirasse de poils. Baikare ou Shemo, Baikre, Sirah ou Baikre. On a écrit au Shemo Esav. Et Rashi va citer le Midrash, tous le nommaient Esav. Alors regardez comment Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire Esav. Vous avez dans le verset 25. Hakol karuloken, lefi shaya na'asa benigma besaaro kevenesim shana. Parce qu'il était déjà fait, na'asa, Esav, la racine aso. Okay. Accompli, achevé, du point de vue de sa pilosité, je ne sais pas comment on dit ça, la guerre de 14, on appelait ça les poilus, et le camp âgé de 20 ans. Alors, Esav, achevé. Vous voyez à quoi ça ressemble ? Caïm, Canouille. Accompli. Okay. Vous voyez que cette problématique va revenir de façon souterraine. D'ailleurs, je vous donnais un remède. Mais c'est ça. J'ai une fois rattaché ça au verset de Kohelet, En Hadash Tahat HaShamesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et la Gemara ajoute, Aba Lemar la Nashemesh Ish Hadash. C'est-à-dire, le temps des Goïm est compté d'après le soleil. Et alors que le temps d'Israël est compté d'après la lune, le chidouche. Alors c'est comme si l'Église avait dit « En chidouche et tselagoïm ». Il n'y a pas de chidouche et de l'église. Est-ce que c'est clair ?« En chadash tachatash ». Dans le temps d'Egoïm, il n'y a pas de chidouche. C'est toujours la même histoire. C'est une histoire naturelle qui recommence sous des formes différentes. Mais c'est la même histoire. C'est les Malchouyotes. Babel, Paras, Yavan, Romi, tout là-bas. Et j'étais très favorable de cela dans la symbolique mystique des Goïms. Ils ont ce mythe du soleil. D'ailleurs, si vous étudiez le mythe chrétien au niveau théologique le plus profond, à un niveau que les chrétiens même ont oublié, c'est un mythe païen solaire, hein, ou ce mythe du christianisme. Et alors, regardez par exemple le grand siècle en Europe, c'est le XVIIe siècle, et vous voyez Napoléon, hein, d'abord le roi soleil, et après Napoléon, ils sont tous les 12 généraux, etc. Ça travaille toujours de la même manière. Ils sont, enfin, c'est une symbolique qui est très cohérente. Ils sont sous le plan du soleil. Alors, être Kadash, c'est Naas. Mais pour relier avec le problème du christianisme, il y a un remède, pas la peine d'aller jusqu'à l'édition des sources en détail, j'étudierai ça dans 40 ans, c'est que c'est finalement le nom qu'ils ont donné à leur idole, c'est Esav. C'est les mêmes lettres. Okay. Vous voyez comment ça s'écrit en hébreu, le nom de leur faux dieu, c'est Esav avec un Yud. C'est exactement la même mot. C'est clair? D'accord. Alors, je reprends. Je reprends le texte. Vechal et Kenyatsahi, et après est sorti son frère, Beado Chesed va akher Esav, et sa main tenait le talon de Esav, va écraser mon Yaakov, et il nomma, Rashi cite le Midrash, et Dieu nomma son nom Yaakov au futur, Yaakov. Beisrak ben Fishim Shana, Beleder Ota. Encore un verset, et je reviendrai sur le problème qui est le sujet de l'étude. Baïd Delou Anéharim, et les jeunes gens grandirent. C'est-à-dire, tant qu'ils étaient enfants, bébés, enfin, jumeaux, on ne voyait pas de différence entre eux. Okay? Mais quand ils ont grandi, la différence va s'indiquer. Baïd, Esav Ish de Dehar Tsaïd, et Esav devint un homme connaissant la chasse, Ish Sade, un homme du champ. Yaakov Ishtam, et Jacob, un homme paisible, Yoshevo Alim, habitant les tentes. Alors, je vais directement au décryptage du thème. Ça veut dire qu'on voit que Esav a opté pour les tâches matérielles, il est l'homme du monde extérieur et de la violence. Et donc de la violence. Alors que Jacob a opté pour les tâches spirituelles, le Midrash va intervenir, Yoshevo Alim, c'est la yeshiva, c'est la maison d'études. C'est clair. Et donc il est paisible. Ceci dit, je voudrais ouvrir une parenthèse. Regardez bien ce que dit le verset. Que Yaakov est Ishtam. Il ne dit pas simplement Tam. Ishtam. Ça veut dire qu'il est Ish. Comme Esav. Mais il préfère être Tam. Vous avez compris la nuance. Ish, ça veut dire Gibor. Mais Tam. Ce n'est pas qu'il est faible. C'est un Ish, mais paisible. Alors que Esav est Ish, mais violent. Et alors le verset 25, et on revient après au sujet, voyez, Esav, ce que je vous indiquais, et Isaac a aimé Esaü, Kitsaïd Befi, car il avait le goût du gibier dans la bouche. Ça c'est le pshat. Qui avait le goût du gibier dans la bouche? Hein? Qui avait le goût du gibier dans la bouche? Yitzhak, bien fait, dans le pshat. Berivka ou Evet et Yaakov. Ça veut dire que on a ici une indication un peu à l'avance lorsqu'il va demander pour bénir Esaü, il va lui demander de lui ramener du gibier. Vous rappelez de ça, okay? Bon. Ça c'est le plan. Et alors, par quoi commencer? Je vais vous indiquer à travers un midrash qui me semble très important, un midrash du Zohar. Une autre lecture de Kitsaïd Befi. Et ça va me prendre un quart d'heure, mais il y a un peu de patience. C'est-à-dire, voilà, il y a deux tâches pour l'homme à résoudre. Les tâches matérielles et les tâches spirituelles. C'est ça le problème qui est posé à l'homme. Or, c'est ça la grande difficulté. Lorsqu'on est voué à la vocation spirituelle, on est indisponible pour la vocation matérielle. Lorsqu'on est voué à la vocation matérielle, on est indisponible pour la vocation spirituelle. C'est clair? Bon, c'est pas simple ce que je viens de dire là, c'est un problème, mais je voudrais que ce soit clair. Or, il faut les résoudre les deux. Alors, il n'y a que quatre possibilités. C'est Ou bien, on a un homme de la vocation matérielle et qui est coupé de la vocation spirituelle. Ça, c'est un Esav qui n'est que Esav, Rachar. Okay. Ou bien, on a un homme de la vocation spirituelle et qui n'est que l'homme de la vocation spirituelle, coupé de la vocation matérielle. Ça, c'est un Yaakov qui reste Yaakov et qui ne devient pas Israël. Vous suivez? Ou bien on a un homme qui est capable ni de l'une ni de l'autre des deux vocations, c'est l'échec absolu, ou bien on a un homme qui est capable des deux à la fois, et celui-là s'appelle Israël. Alors là, je suis au début d'une analyse que je voudrais prendre le temps qu'il faut pour ça, pour vous arriver à comprendre. On risque d'être habitué à l'idée que la vocation d'Israël est que spirituelle. C'est une erreur. Ben c'est la grande différence que nous avons avec le judaïsme de la Galoute. Okay? Ça, c'est la vocation Jacob. Jacob ne reçoit le nom d'Israël que lorsqu'il est capable et de la vocation de Jacob cacher et de la vocation d'Ésaü cacher à la fois, alors il est Israël. Et ça, c'est grâce à Joseph que ça va se dénouer plus tard. Joseph, chez Oussitno, chez Ressa. C'est Joseph qui va faire la preuve qu'on peut être hors de la vocation matérielle et tzaddik. C'est pourquoi, quand Joseph apparaît, Esaü est disqualifié. C'est clair? De la même manière, puisque j'ai parlé de Joseph, il y a Yehuda. Yehuda, c'est le prolongement de la vocation spirituelle de Jacob. C'est clair? Tant que Yehuda et Joseph ne sont pas unis, il n'y a pas encore Israël. Tant que Joseph et Yehuda sont séparés, il n'y a pas encore Israël. Joseph seul, c'est pas encore Israël. Yehuda, seul, c'est pas encore Israël. Ensemble, c'est Israël. Et tout ça, on retrouvera très en détail. Simplement, je reviens sur le problème sur lequel nous sommes en train de réfléchir. Okay. Il y a une problématique difficile. Il faut arriver à engendrer l'homme vrai, qui se nommera Israël, et qui sera tzaddik à la fois dans la vocation matérielle et dans la vocation spirituelle. Or, a priori, elles sont incompatibles. Je vais prendre ce premier point. A priori, elles sont incompatibles, et pourtant l'objectif, c'est un homme capable des deux. Et alors là, il s'appelle Israël, et c'est surhumain. Voilà, ça, vous avez compris le thème. Bon, alors sur le premier point, je pense que c'est pas tellement difficile à comprendre. Pour être vraiment un Chacham, il faut faire que ça. C'est pas lorsqu'on fait de temps en temps une heure de Torah qu'on est un Chacham. Un Chacham, c'est 25 heures sur 24. Et je pense que ça peut être rattaché au problème de vocation humaine en général. Pour devenir compétent dans une vocation, il faut aussi donner. On ne peut pas être amateur dans une vocation pour que ça soit sérieux. Un vrai Talmid Chacham, c'est Torato Umanuto. Il ne fait que ça. De la même manière, quelqu'un qui est voué aux tâches matérielles, je vais prendre l'exemple des mathématiques. Pour être mathématicien, il faut être mathématicien 25 heures sur 24. On ne peut pas être mathématicien amateur. Bon, ça c'est des coups de projecteur pour vous montrer comment au point de départ le problème semble insoluble. Et pourtant l'idéal, c'est un être qui soit capable et d'être l'homme de la vocation matérielle et sérieusement et compétent, et d'être l'homme de la vocation spirituelle et compétent. Et c'est cette solidarité entre Joseph et Judas qui va se chercher à la génération suivante. Et lorsqu'il y a unité des deux, Israël apparaît. Or, ça s'annonce chez Jacob. Jacob est l'homme de la vocation spirituelle. Mais on apprend qu'il est capable de faire à manger un repas que Isaac ne verra pas la différence avec le gibier de son fils. Vous voyez ? C'est-à-dire que Jacob a choisi la vocation spirituelle, mais il ne s'est pas fait avoir par elle au point de rester un ascète de la vocation spirituelle, un ermite. Il est capable de fonder un foyer. Non seulement ça, il a quatre femmes. Mais, alors qu'Ésaü a choisi les tâches matérielles et s'est fait avoir par les tâches matérielles, il est devenu rachat. Voilà, vous voyez qu'on commence à faire avancer, okay. Là, c'est un problème entre les deux. Alors, on comprend qu'à la racine, Ésaü protège, Isaac protège Ésaü. Et jusqu'au bout, nous dira le Midrash, Isaac espère, je ne veux pas dire persuadé, il ferme les yeux, mais c'est pour pas voir, que Esav est caché. Esav le trompe. Il est capable de pile-poule de manière telle que Isaac est persuadé que Esaü est caché. Vous connaissez ces midrashim? Par exemple, il demande à son père si on doit faire le maaser sur le sel. Alors son père se dit, qu'est-ce qu'il est pur, mon fils? Alors c'était un rusé, un roublard, pour une sorte de message. Tu sais, je suis caché, hein, je fais le maaser sur le sel. Mais quand vous apprendrez la Kabbalah, vous verrez que cette idée de maaser sur le sel, c'est pas ça. Okay, la plus grande est Averro. Il se fait passer. Et alors, ou bien, il ramène du gibier à son père, on me disait, tu sais, il est cachère, garantie Beddin. Comment? Eh bien oui, j'ai aiguisé les flèches de manière telle que quand la flèche arrive sur le cou de l'oiseau, c'est cachère. Il y a un magillard. Et Isaac, il ferme les yeux. Pour, donc, personne n'est dupe de ce qui se passe là. On va aller là, lentement, lentement. Alors, le Zohar, le Dage, le Zohar, je cite, lit Kitsaïd des filles d'une toute autre manière. Il dit, parce que, pourquoi Isaac aimait Esaü? Parce qu'Esaü avait une proie dans sa bouche. Saïd, c'est le gibier, la proie. Il l'avait dans sa bouche à lui, Esaü. Et qu'est-ce que c'était cette proie? C'était la Neshama de Rabbi Meir, dit le Zohar. Et qui est Rabbi Meir? C'est le grand maître de la Mishnah. Stan Mishnah, Rabbi Meir. C'est-à-dire le koar de la Torah Shebe'alpé du Pilpoum de la Halakha. C'est l'année Shaman Rabbi Meir, il avait ça dans sa bouche, et ça. J'y arrive, je la passe. Ça veut dire que nous savons que Rabbi Meir descend de Esa. Je ne sais pas si vous savez ça. Dans les descendants de Guérim. Ah, vous ne savez pas, alors apprenez. Et nous savons que le génie de Rome, c'est précisément le droit formel, la capacité de la discussion juridique légale. Et, vous savez, okay. Et alors, effectivement, Isaac protège Esaü parce que c'est nécessaire d'incarner les valeurs spirituelles dans le monde de la réalité matérielle. Et ça, c'est le corps d'Esaü, l'élaboration de la Torah Shebe'al-Pé, Rabbi Meir, c'est dans la bouche d'Esaü. Alors voilà pourquoi Isaac aimait Esaü. Kitsaïd de fille. Mais Esaü le trompait. Je vous donne une autre source. C'est que le rattache aussi à cela, lorsque Yehuda a été dans le cas de tuer Esav, alors Yehuda ne pouvait pas tuer Esav parce que Esav ressemblait à son père. Vous avez connu ce message, hein?
Vous savez qu'il avait pensé le tuer, vous savez pas pourquoi il l'avait pas
tué. Oui, alors c'est donc un fils de Dan qui va tuer Esav. Okay? Mais, alors voilà le verset sur lequel se relit ce message que je suis en train de vous expliquer. C'est lorsque Jacob revient de son exil et qu'il rencontre Esav qui veut lui faire la guerre. Alors ça c'est au début de la paracha de Vaishlach, si vous pouvez la prendre tous les yeux. C'est au verset, au début de la paracha de Vaishlach, une minute. Voilà. Au verset 8 du chapitre 32. Vous y êtes? Alors je vais lire le verset. Lorsque Jacob s'aperçoit qu'Esaü vient contre lui pour lui faire la guerre, le verset dit Vaïra Yaakov Meod, et Jacob eut très peur, Vaïtserlo, et il fut dans l'angoisse. Okay? Alors étant donné cette répétition apparente, Rachid doit expliquer que ce n'est pas une répétition, et il cite la Midrash, dans la Midrash Tanchuma, si je me souviens bien, prenez le Rachid dans le verset 8. Oui. Vaïra, il a eu peur, Shema Yahareg. Il a eu peur d'être tué. Vous suivez? Vaïtserlo, Elle fut dans l'angoisse. Imiarogu et Aherim. Si lui tue les autres. Alors le Imiarogu et Aherim est de trop. Il avait suffi que le Midrash dit Vaïra Shemayahareg, Vaïtserlo, Imiarog. Et c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire Imiarogu et Aherim? Alors le commentaire que je vous cite explique Aherim c'est qui? Quand on dit Halacha ke Aher, Halacha ke Aherim, c'est qui? Ah, vous n'avez pas. C'est Rabbi Meir. En tant qu'il était l'élève de l'Isham Ben Abouya, on dit Halacha ke Aher. Vous savez, c'est clair? Ça veut dire, il a eu peur d'être tué par Esaü, il a eu peur, il était dans l'angoisse d'avoir le tué parce qu'il y avait la Neshama de Rabbi Meir dans Esaü. Vous suivez? Vous voyez comme on le voit dans Rashi. Bon, alors ça va jusque-là. Ça veut dire qu'il y a un koach dans Esav qui pourrait être kasher. Et il se dévoile qu'il pouvait être kasher. Ça va se dévoiler avec Rabbi Meir, dira cette tradition, le koach, la Torah Shebealpé. Okay? Mais Esav a préféré être rachat. Alors voilà maintenant les données de notre problème. Au point de départ, il y a deux vocations différentes. Une, c'est la vocation des tâches matérielles, et l'autre, c'est la vocation des tâches spirituelles. Et on n'a pas encore dit que c'est une prédétermination à être ou rachat ou tzadik, que les tâches matérielles mèneraient à être rachat, que les tâches spirituelles mèneraient à être tzadik. Ça veut dire que l'homme des tâches matérielles peut être ou tzadik ou rachat, et l'homme des tâches spirituelles peut être ou rachat ou tzadik. C'est clair. Et alors, ce qui est arrivé, jusqu'au récit qu'on a lu, on ne sait pas encore qu'Esav est devenu rachat. On va l'apprendre plus tard, ça va se dévoiler plus tard. Ce qui est arrivé, c'est que Esaü a choisi les vocations matérielles et que Jacob a choisi les vocations spirituelles. Dans le plan de Isaac, tout est clair, tout est en ordre. Chacun des deux va s'occuper d'une partie de la vocation humaine et ensemble ils vont réussir. Et c'est pourquoi Isaac, plus tard, va donner la bénédiction matérielle à Esaü comme s'il ne savait pas qu'il avait perdu le droit d'aînesse. Il le savait. Mais il donne à Esaü la bénédiction qui lui va si Esaü était tzadik dans l'option matérielle, les bénédictions matérielles. On verra ça plus en détail plus tard. Et il réserve à Jacob la bénédiction spirituelle qui est une autre et qui est appelée dans le texte Birkat Abraham, la bénédiction d'Abraham qui dans tous les cas devait aller à Jacob. C'est Rivka qui sait que cette solution est impossible parce que les enfants ne s'aiment pas, Esaü n'aime pas Jacob et Jacob n'aime pas Esaü. Il n'y aura pas de fraternité entre eux, qu'ils ne partageront pas, et qu'elle les perdra tous les deux en même temps. Alors c'est pourquoi Rivka intervient, pour que Isaac donne à Jacob aussi la bénédiction matérielle. Vous en allez juste là, on verra la suite par la suite. Alors je reviens au point de départ. Au point de départ, il n'y a pas prédestination. Il y a option d'Esaü, des tâches matérielles, et elles sont cachères. C'est Dieu qui a créé le monde du ciel et de la terre. Alors il y a les tâches de la terre. Et Esaü aurait pu être, par sa capacité de vocation matérielle terrestre, si je veux dire, le tzadik de la terre. Jacob, et c'est ça le miracle, Jacob a choisi les tâches spirituelles. Et alors, ce qu'il faut que j'explique maintenant, il me reste, j'espère, suffisamment de temps, une minute. C'est cela, c'est que dans les deux vocations, peut être tzadik ou rachat. Ne croyez pas qu'il suffit d'opter pour la vocation spirituelle pour être tzadik. C'est tout le contraire. C'est plus difficile d'être tzadik dans la vocation spirituelle que dans la vocation matérielle. Il va arriver que l'homme choisissant la vocation matérielle tombe dans le rachat. Et que l'homme ayant choisi la vocation spirituelle tombe dans l'être de tzadik. Mais ça, c'est le mérite ou le démérite qu'il a fait. Nous allons voir dans Rashi. Rappelez-moi que c'est la prochaine fois que c'est là qu'on est arrivé, on étudiera une Gemara ensemble. Je vais mettre ça en évidence. Mais simplement, pour vous dire l'idée générale. Regardez combien d'hommes sur la planète ont une vocation spirituelle. Et c'est des chahim, mourim. Okay? C'est clair? Et alors, c'est cette preuve qu'il y avait à faire. Et vous retiendrez tous ces schémas, mais j'en ajouterai d'autres jusqu'à ce que ça vienne. Vous allez prendre notre paracha au verset et on s'arrêtera là. Au verset 23.
Toujours le même chapitre.
Hein?
Toujours le même chapitre.
Oui. du chapitre 25 dans tout l'autre. Voilà. Regardez ce que dit Rashi. Dès les entrailles, ils se séparent. Et ça veut dire à la sortie des entrailles. Okay? Il n'y a pas de prédestination. Rashi est dans un diouk qu'il faut retenir. Hem nifradim, zé les richo, zé les tout beau. Celui-là, pour, comment vous allez m'aider à traduire, zé les richo, celui-là pour son rachat, son fait d'être rachat, zé les tout beau, et celui-là pour son fait d'être paisible. Okay? Ça veut dire que devant les deux, il y a une problématique analogue. L'un, l'homme de la vocation matérielle pourrait être ou tzadik ou rachar, il a choisi d'être rachar. L'autre, l'homme de la vocation spirituelle pourrait être ou tzadik ou rachar, il a choisi d'être tzadik. Zélé, c'est ce vav qui est important. Pour son fait d'être rachar, mais zélé tout mot, pour son fait d'être tzadik. Voilà la première lecture. C'est-à-dire qu'il y a, ce qui est imposé à l'homme, c'est qu'il y a deux tâches différentes à résoudre. La vocation matérielle, la vocation spirituelle. Là où il est libre, c'est d'être tzadik ou rachar dans les deux cas. Il n'y a pas de prédestination au niveau moral. Alors, la difficulté, et on reprendra ça un peu plus en détail, c'est qu'on pourrait penser que Stam, le fait de choisir la vocation matérielle, ça rend rachar. Quel ? Joseph va intervenir pour montrer que c'est faux. On peut être tzadik. C'est clair ? De la même manière, l'erreur serait de croire qu'il suffit de choisir la vocation spirituelle pour être tzadik. Et ça, nous verrons que lorsque Esav va parler comme Jacob, faire comme si il a la parole de Jacob, il est cependant rachat. Et ça, c'est le problème du christianisme qu'on retrouvera. Regardez ce verset qui est extraordinaire. Akol kol Yaakov, ve'yadayim yedei Esav. La voix, c'est la voix de Jacob, et les mains, c'est les mains d'Esaü. Et ça, dans le premier pshat, ça, c'est la parole chrétienne. La voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains, c'est les mains d'Esaü. Vous avez bien compris, il parle comme Jacob, mais les mains, c'est les mains des autres. Et Dieu est.
Ce qu'on a dit à l'instant, en ce qui concernait précisément le spirituel et le matériel, est-ce que ça veut dire que la vocation d'Israël,
c'est de devenir
une puissance économique et à la fois une puissance spirituelle, voilà.
Et on va prendre acte de quelque chose. Et je vais finir sur cette analyse, pas sans prendre trop de temps, mais rappelez-moi pour la fois prochaine. Quelle est la différence entre Israël en tant que société israélienne et une communauté juive de la diaspora? Mais la communauté juive de la diaspora se définit comme Jacob, l'homme de la vocation spirituelle, mais qui est censé se préparer à devenir Israël. Si c'est bloqué, alors ça se définit que comme une vocation spirituelle. Alors que la société israélienne, par définition, a les deux tâches à résoudre. Alors, c'est le schéma que je voulais vous proposer. Quand on compare l'histoire du développement de la civilisation en Occident et en Orient. Ceci est schématique, enfin, j'ai peu de temps, mais j'espère que ce sera clair. On s'aperçoit que finalement, l'Occident a choisi les vocations matérielles. L'Occidental est devenu capable de performance dans les sciences et les techniques, l'homme du monde extérieur. C'est clair. Et il est aveugle pour la vie spirituelle. Quand un Occidental cherche une vie spirituelle, il la cherche en Orient. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Okay. Ils appellent ça s'orienter. Et alors qu'en Orient, il semble que finalement, ça soit développé de la façon inverse. L'oriental est devenu capable de performance dans la vie spirituelle et aveugle dans les sciences et les techniques. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'un oriental ne peut pas être prix Nobel de physique, de chimie, mais à condition de se faire un élève d'un occidental. Et là, il devient prix Nobel. Ça ne veut pas dire qu'un occidental ne peut pas avoir de vie spirituelle, mais à condition de se faire un disciple d'un maître oriental. C'est clair. Donc, c'est comme ça qu'il est arrivé dans l'histoire à travers les siècles. Or, Israël, c'est ni l'Orient, ni l'Occident, dans ce sens-là. En Israël, il y a les deux vocations. C'est clair. Le juif est capable d'être prix Nobel et recevoir. Alors, l'idéal, c'est quand il est les deux à la fois. Tant dans la société d'Israël, il y a ces deux forces. Tant qu'elles sont côte à côte et antagonistes, c'est qu'on est encore dans le Vaï Protetsu Abanim. Et lorsqu'elle s'unifie, alors c'est la réussite. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, c'est clair. Oui. Pas encore.
Ma question, c'est à savoir, est-ce que la vocation d'Israël, c'est de devenir une puissance économique au sens de puissance économique du terme, savoir où elle
s'agit. Mais c'est un, comment dire, c'est un pléonasme. Puissance, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu crois? Que Israël, sa vocation, c'est d'être un ghetto?
C'est quoi?
D'être un ghetto et de vivre la charité des autres? Évidemment pas. Lis des textes.
D'accord, mais il n'y a pas une prédominance de l'un sur l'autre. Il n'y a pas une prédominance du...
Alors, tant qu'on pense qu'il y a une prédominance de l'un sur l'autre, alors on ne sait pas encore suffisamment de choses. Parce qu'il est clair que tant qu'on n'est que Jacob, ce n'est pas Israël. Tant qu'on n'est qu'Ésaü, ce n'est pas Israël. Quand Jacob est capable de deux forces cachères, il s'appelle Israël. Est-ce que c'est clair? Donc, oui, cette résistance des juifs de la vocation religieuse et que cela vis-à-vis d'Israël a son explication là. La peur de devenir Israël. Je préfère rester Jacob. Vous savez, quand Rivka envoie son fils se faire passer pour Ésaü, Jacob refuse, il dit j'ai peur. C'est Rivka qui l'oblige. Il dit tu seras Israël.
D'accord, mais ce qu'on peut remarquer en ce qui concerne précisément les communautés encore en exil, c'est que précisément, si elles se considèrent, si elles sont assimilables à Jacob, à savoir qui axe plus le côté spirituel,
que ça,
elles sont quand même assez à l'aise,
et dans le
matériel. Oui, elles réalisent aussi.
Comme parasite des goyim, et donnent le reste aux goyim. Pas en tant que juif. Comment il se définit en tant que juif? Dans sa synagogue, dans sa yeshiva. Mais la vie de la cité donnait ça au goyim. Et on a droit à la dîme. Seulement, ils font l'inverse. Ils donnent la dîme au goyim, ils gardent le reste. Alors, tout ça, il faudra reprendre présent le détail, mais ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire, là, le refus d'Israël de la part du juif religieux de diaspora, c'est exactement, ça peut se formuler ainsi, le refus de Jacob d'avoir le courage de devenir Israël. Dans l'analyse que nous avons, je crois que c'est très clair. On prendra ça aussi dans notre texte. Vous savez de quel milieu on fait partie. C'est-à-dire, l'idéal, c'est quand les deux réalités à la fois, les deux soient juives, et pas une égoïe et l'autre juive. Est-ce que c'est clair? Vous n'avez pas remarqué qu'un Talmid Chacham sioniste, c'est déjà une autre personnalité qu'un Talmid Chacham non sioniste, avec tout ce que ça implique. Est-ce que c'est clair, je veux dire? C'est déjà autre chose. L'un, ça veut pas dire que l'autre n'est pas juif. L'autre n'est que juif. Mais l'un est déjà Israël. Alors c'est dans ce sens-là qu'on continuera l'analyse. Est-ce que c'est clair? Donc, alors on se retrouve la semaine prochaine.